VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du lundi 10 septembre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Le couvre-feu a été instauré à Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun après une attaque contre un bus ayant fait un mort ce week-end.
Nous ne pouvons pas expliquer comment est-ce que des sites lourdement protégés par l'armée soient attaqués, incendiés, brûlés, comme ce fut le cas il y a quelques jours en arrière entre Babadjou et Bamenda.
Le président soudanais Omar el-Béchir nomme un nouveau premier ministre dans un contexte de grave crise économique. En Somalie, un attentat à la voiture piégée revendiquée par Al-Shabaab a fait 6 morts à Mogadiscio. L'administration Trump ferme la représentation diplomatique palestinienne à Washington. Par ailleurs, le gouvernement américain tire à boulet rouge sur la CPI qualifiée d'inefficace, d'irresponsable et de dangereuse. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Cameroun, un couvre-feu a été instauré jusqu'à nouvel ordre à Bamenda, dans la région anglophone du Nord-Ouest. Une décision prise après qu'un chauffeur d'autocar a été tué et plusieurs personnes blessées dans l'attaque d'un convoi de bus dans la nuit de samedi à dimanche. Nous y reviendrons en partie magazine. Des centaines de camions de marchandises destinés au Niger sont bloqués depuis une semaine au Bénin. Le pont sur le fleuve Niger étant coupé après de fortes pluies, selon Chaibou Tchombiano, secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs du Niger. 398 camions chargés de marchandises sont bloqués à Malanville, la dernière ville béninoise proche du Niger. Pour pouvoir acheminer au plus tôt le fret au Niger, les autorités béninoises proposent notamment un détour vers le Nigeria en attendant la construction d'un nouveau pont, d'un autre pont sous 45 jours au minimum. Un responsable de l'ex-rébellion Touareg dans le nord du Mali a été assassiné hier à Tombouctou. Il s'agit du commandant Saloum Ould Bekki. Il était membre de la coordination des mouvements de l'Azawad au sein du mécanisme opérationnel de coordination MOC à Tombouctou. 6 personnes au moins ont été tuées, 16 blessées aujourd'hui dans un attentat à la voiture piégée revendiquée par les islamistes Shabab. L'attaque a visé un bâtiment officiel dans la capitale somalienne Mogadiscio. Le point avec Jacques Aristide.
Certains des corps retrouvés sous les décombres d'immeubles détruits près du quartier général du district de Odan étaient impossibles à identifier en raison de la gravité des brûlures, d'après un témoin. La voiture utilisée pour perpétrer l'attentat était remplie d'explosifs. Le véhicule a d'abord foncé sur un barrage avant d'exploser. Une colonne de fumée était visible au-dessus du lieu de l'explosion. Des images montraient des constructions effondrées, dont une mosquée où des secouristes et des civils s'affairaient à la recherche des victimes. L'attentat a été revendiqué par les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda et qui a juré la perte du gouvernement fédéral, soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie.
Le président soudanais Omar el-Béchir a limogé l'intégralité du gouvernement et nommé un nouveau premier ministre chargé de former un gouvernement resserré pour faire face à la crise économique qui frappe son pays, ce qu'a annoncé hier la présidence. Nanit Talani.
Moutaz Moussa Abdallah, ministre de l'irrigation dans le cabinet sortant, a été nommé premier ministre. La décision du président Omar el-Béchir de congédier l'ensemble des 31 membres du gouvernement a été approuvée par les dirigeants du Parti du Congrès national au pouvoir lors d'une réunion nocturne. La situation économique doit être résolue et pour cela, le président Béchir a décidé de dissoudre le gouvernement à tous les niveaux et a décidé d'avoir un gouvernement plus restreint de 21 membres, a expliqué Faisal Hassan Ibrahim, un des principaux collaborateurs du chef de l'État soudanais. Le cabinet sortant était composé de 31 ministres dirigés par Bakri Hassan Saleh, qui continuera à être le premier vice-président. Le Soudan traverse une crise économique. La hausse des prix du carburant et des denrées avait entraîné des émeutes à Khartoum et dans d'autres villes.
L'envoyé spécial pour les questions de trafic des êtres humains des Nations Unies a expliqué que le Nigeria n'en faisait pas assez pour lutter contre ce système de crime organisé, ce qu'a déclaré donc Maria Grazia Guillamano-Rinaro, au terme d'une visite de 8 jours au Nigeria, pays le plus peuplé du continent africain et dont 18 000 ressortissants sont arrivés sur les côtes italiennes en 2017, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Au moins 2 personnes ont été tuées lors d'une attaque attribuée ce lundi à des djihadistes contre le siège de la Compagnie nationale de pétrole dans la capitale libyenne, qui sort à peine de plusieurs jours d'affrontements meurtriers entre groupes armés rivaux. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, a été qualifiée de terroriste par la mission de l'ONU en Libye et le gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale. L'Italie n'accepte de leçons de personne sur les migrants, ce qu'a affirmé Matteo Salvini, son ministre de l'Intérieur. C'est en réponse aux critiques de Michel Bachelet, la toute nouvelle haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Le point avec Idriss Fall.
Nous n'acceptons de leçons de personne et encore moins de l'ONU, a écrit Matteo Salvini, précisant que ces dernières années, l'Italie a accueilli 700 000 immigrés, dont beaucoup de clandestins, et n'a jamais reçu d'aide d'autres pays européens. La Chilienne Michelle Bachelet, dans son premier discours à la tête du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, avait dénoncé les murs érigés contre les migrants et critiqué la décision prise par M. Salvini de fermer les ports italiens aux navires ayant secouru des migrants en Méditerranée. Madame Bachelet a aussi annoncé qu'une équipe se rendrait en Italie pour évaluer des actes de violence et de racisme contre les migrants d'origine africaine et les Roms. Le ministre Salvini, qui est aussi chef de l'extrême droite, lui a répondu du tac au tac. Selon lui, l'ONU, au lieu de s'occuper de l'Italie, devrait enquêter sur ses propres États membres qui ignorent les droits élémentaires comme la liberté et la parité entre hommes et femmes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration américaine a accusé ce lundi la Cour pénale internationale d'être inefficace, irresponsable et carrément dangereuse dans une attaque sans précédent contre cette instance chargée de juger notamment les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Washington n'est pas membre de la CPI. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale du président américain, a dénoncé la possibilité d'une enquête de la CPI contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan. Les États-Unis ont notifié à la direction palestinienne leur décision de fermer la mission palestinienne à Washington. Les Palestiniens dénoncent ce qu'ils appellent une dangereuse escalade dans les mesures de rétorsion américaines. Nathalie Barche.
Il s'agit là d'une nouvelle illustration de la politique de châtiment collectif pratiquée par l'administration Trump contre le peuple palestinien, a dit le numéro 2 de l'OLP. Cette décision est la dernière d'une série de mesures contre la direction palestinienne qui a gelé les relations avec les États-Unis depuis la reconnaissance par Washington le 6 décembre de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le 25 janvier, Donald Trump avait conditionné le versement aux Palestiniens de centaines de millions de dollars d'aide à leur retour à la table de négociation. Le 14 mai, l'ambassade américaine a été transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Le 31 août, l'administration américaine annonce qu'elle va cesser de financer l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, une semaine après avoir supprimé 200 millions de dollars d'aide. Et samedi, Washington a ordonné la suppression d'une aide de 25 millions de dollars aux hôpitaux palestiniens à Jérusalem-Est.
Le chef d'état-major des armées françaises appelle les Européens à se doter urgemment d'une défense collective propre à assurer son autonomie stratégique. Le général François Lecointre explique que cela est dû à un contexte de remise en cause du multilatéralisme et de fragilisation des alliances. L'Union européenne tente de s'adapter à la volonté affichée du président américain Donald Trump de réduire l'implication des États-Unis dans la défense de l'Europe. En France, une enquête pour vol a été ouverte après la plainte d'une membre de la famille royale saoudienne. Elle affirme avoir été victime d'un vol de bijoux estimé à 800 000 euros dans un palace parisien. Les bijoux n'étaient pas dans un coffre et aucune trace d'effraction n'a été constatée. Bras de fer entre la première ministre britannique et son ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manerakiza.
Nouvelle compagnie aérienne nationale tchadienne en octobre prochain. Résultat d'un accord avec Ethiopian Airlines, Tchadia Airlines disposera d'une flotte initiale de 2 avions bombardiers Ki-400 et desservira les 4 principales villes du pays et des pays voisins. N'Djamena détiendra 51% de la nouvelle compagnie. Ethiopian Airlines a déjà injecté 30 millions de dollars en Zambie pour relancer la compagnie aérienne nationale. Elle sera aussi entièrement propriétaire d'une nouvelle compagnie aérienne au Mozambique. Djibouti, la Guinée équatoriale, le Nigeria et la Guinée sont également en négociation avec Ethiopian Airlines pour créer de nouvelles compagnies. Premier Business Forum Togo-Chine à Hangzhou. Le président fort Nyasimbe est à l'offensive pour vendre l'ambitieux plan national de développement du Togo au secteur privé. Il a présenté les potentialités de son pays et vanté son positionnement géographique et géopolitique. Ses atouts font de Lomé une portée d'entrée naturelle en Afrique de l'Ouest. Accord de financement de 3 milliards de dollars entre l'Égypte et la Société islamique internationale de financement du commerce. D'une part, le gouvernement fournira des produits de première nécessité à environ 67 millions d'Égyptiens. De l'autre, il financera l'importation des produits de base, notamment le pétrole, les produits pétroliers et le gaz. Ce financement porte à plus de 9 milliards de dollars, l'enveloppe que la filiale de la Banque islamique de développement a déjà déboursé en faveur du Caire.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Football avec la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 et le bon point du Bénin au Togo.
Et oui, dans ce derby d'Afrique de l'Ouest entre voisins, le Togo et le Bénin se sont quittés sur un score nul et vierge. Un résultat qui fait les affaires des écureuils. Michel Dussuyer salue d'ailleurs le travail réalisé par ses joueurs.
L'effectif n'est pas si large que ça, donc d'abord c'est tirer le maximum de mon équipe et d'être sur ses points forts, donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à ce schéma-là. Et puis la deuxième chose, c'est l'équipe du Togo, un potentiel offensif, donc il fallait qu'on se rassure à ce niveau-là.
Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin. Les éperviers de Claude Leroy, qui ont globalement dominé ce match fermé, ont eu du mal à se créer des opportunités. On écoute Claude Leroy, visiblement déçu par ce résultat.
Nous, on a cherché à jouer en permanence. Bon, eux, ils ont cherché à trouver Mounier sur des longs ballons pour trouver des déviations. Ils ont réussi dans leur entreprise, puisqu'à l'arrivée, ils ont fait match nul. Je pense qu'on a manqué un peu de justesse dans les 30 derniers mètres, sur des dernières passes, sur des derniers centres, sur des derniers tirs.
C'était donc Claude Leroy, sélectionneur du Togo.
Le Maroc s'est relancé face au Malawi.
Oui, les Lions de l'Atlas ont dominé les Malawites 3-0 et prennent la deuxième place du groupe B, tandis que le Cameroun, qualifié d'office en tant que pays hôte, s'est contenté du match nul de 1-1 aux Comores. Hervé Renard se félicite du temps passé avec ses joueurs après le mondial russe.
On avait à cœur ce soir de revenir devant notre public en montrant une bonne prestation. On a marqué de jolis buts, on aurait pu en mettre beaucoup d'autres, mais je suis satisfait de la production et surtout de la semaine qu'on vient de passer avec l'ensemble des joueurs.
Deux matchs, deux victoires pour la Guinée.
Après sa victoire surprise en Côte d'Ivoire lors de la première journée, le Sili National a confirmé à domicile en disposant de la Centrafrique 1-0. Les éléphants, quant à eux, se sont relancés au Rwanda sur la marque de 2 buts à 1.
Et ce n'est pas tout, Yacouba.
Le Mali a signé deux victoires en autant de matchs. En déplacement au Soudan du Sud, les Aigles se sont imposés 3-0. La Mauritanie fait aussi le plein dans le groupe I suite à sa victoire 2-0 devant le Burkina Faso. Pour le reste, le Cap-Vert s'offre le nul 1-1 au Lesotho. La RDC aussi rentre à Kinshasa avec le nul 1-1 face au Libéria, même score entre le Congo Brazza et le Zimbabwe. Enfin, signalons le faux pas du Ghana dans la poule F, battu 0-1 au Kenya, mais qui garde tout de même la première place du groupe.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. Le Cameroun anglophone a connu une attaque d'autocar dans la nuit de samedi à dimanche à quelques kilomètres de Bamenda. C'est dans le nord-ouest du Cameroun. Un chauffeur de bus a été tué, plusieurs personnes blessées. La circulation a repris dans la soirée de dimanche après l'arrivée de l'armée. Eric Manirakiza a joint le candidat du Social Democratic Front, SDF, à la présidentielle du 7 octobre. Il s'agit de Joshua Ossi.
C'est impensable que devant la porte de la résidence du gouverneur du Nord-Ouest, que devant la capitale, dans le chef-lieu du Nord-Ouest, qu'une centaine de personnes viennent bloquer la circulation pendant plus de 3 heures, utilisent une excavatrice, coupent la route en deux et tout le temps de faire ce travail-là et repartent sans qu'il y ait un seul coup de feu tiré. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer et dont les Camerounais requièrent plus d'informations, où on a encore beaucoup trop de questions non répondues dont le gouvernement devra venir répondre. Mais en tout cas, il est évident que ça ne ressemble pas au modus operandi des sécessionnistes dont on a l'habitude jusqu'à présent. Et c'est plutôt une nouvelle approche, si ça vient d'eux, qui a vraiment trop de questions. C'est extrêmement louche.
L'attaque a visé un convoi de bus, mais qui était dans ce convoi? Est-ce que y aurait-il des personnalités bien spécifiques qui pouvaient être la cible de cette attaque?
Ce qui a été rapporté par ceux qui ont survécu à cette attaque, c'est que les choses se passaient bizarrement et ils étaient surpris à la fin même qu'on leur remette leur téléphone, etc. Maintenant, il faut une enquête, il faut savoir exactement ce qui s'est passé pour savoir qui était dans les bus, est-ce que quelqu'un était visé, et au-delà de tout ça, est-ce que tout le monde répond à l'appel après ? Je ne pense pas que l'inventaire même de tous les passagers ait été fait pour savoir et s'assurer que tous les passagers qui sont arrivés à l'embuscade sont aujourd'hui bel et bien en liberté et libres de leur mouvement. Nous avons des forts soupçons sur le fait que le gouvernement lui-même est impliqué dans la déstabilisation de cette partie du Cameroun. Parce que nous ne pouvons pas expliquer comment est-ce que des sites lourdement protégés par l'armée soient attaqués, incendiés, brûlés, comme ce fut le cas il y a quelques jours en arrière entre Babadjou et Bamenda.
Mais le gouvernement voulait impliquer, il a déjà perdu à plus d'une centaine de membres de forces et de sécurité.
Ce qui est en train d'arriver en ce moment, ce qui est arrivé il y a moins de 48 heures, est inexplicable pour un pays qui dépense des centaines de milliards pour son armée, pour un pays qui est censé être gouverné, pour un pays qui a une armée très professionnelle avec des militaires qui sont dévoués à la tâche, que je connais personnellement. S'il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est qu'il y a des décisions politiques au-dessus de l'armée.
C'était Joshua Ossi du parti d'opposition camerounais SDF.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Nouvelle équipe gouvernementale au Mali, elle compte 32 membres, dont 11 femmes. Et parmi ces femmes, Kamissa Camara, la trentaine, qui devient chef de la diplomatie. Cette nouvelle équipe sera en place jusqu'à l'organisation des élections législatives de Bamako. La correspondance de Kassim Traoré.
Très attendu à Bamako, le gouvernement du Premier ministre Soumaïla Boubé Maïga vient d'être mis en place, avec 32 membres contre 35 pour l'équipe sortante. Une équipe bien accueillie par la majorité présidentielle, à l'image de Beydi Diakité du PS Yelenkoura.
Nous pensons que c'est un gouvernement resserré et avec des ministres très compétents, des ministres qui ont de l'expérience. Dans l'expérience gouvernementale, on pense que vraiment c'est un gouvernement de travail, c'est un gouvernement d'union. C'est des gens qui ont vraiment mérité, qui ont de l'expérience dans leur travail de tous les jours. Donc les hommes et les femmes qui viennent d'être choisis par le Premier ministre et le Président de la République, on ne peut que les saluer, les fêter, les souhaiter bon vent et une très bonne chance pour la construction du Mali.
Les nouveaux ministres sont au nombre de 11 alors que les anciens sont au nombre de 22, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de changement selon Noum Togo, secrétaire à la communication de l'opposition.
Le ministère de la Défense a été confié aujourd'hui à un amateur qui ne connaît rien presque de l'armée et le ministère de la Justice a été confié donc à un néophyte dans ce domaine-là. Alors donc nous pensons pour régler un problème de la nation, il faut l'armée et la justice. Alors un professeur Sangaré qui vient au niveau de la défense et un Tiena qui vient au niveau de la justice, ce n'est pas pour régler les problèmes des Maliens. Et que nous disons clairement que c'est un gouvernement qui a été très difficile à accoucher avec des difficultés, avec des contradictions au sein même de la gestion de l'équipe.
Parmi les nouveaux entrants, il y a 11 femmes. Kamissa Camara, la plus jeune, occupe le ministère des Affaires étrangères. Elle remplace Tchema Iber Koulibaly à ses postes.
À mon avis, c'est une bonne chose la reconstitution du gouvernement. Les élections sont finies, donc tout le monde n'a qu'à vaguer à l'air aux occupations. Et puis on veut la paix, surtout la paix au Mali, quand le Mali redevient ce qu'il était auparavant. Le Mali est indigne. Bah, apparemment, moi, je ne les connais pas trop bien, donc j'espère qu'ils vont faire le travail, ce pour lequel ils les ont désignés, pour que le Mali puisse partir de l'avant. C'est tout ce qu'on souhaite.
De façon générale, beaucoup de Maliens trouvent qu'il n'y a pas eu de changement, car plusieurs ténors restent à leur poste ou ont permuté.
Il n'a pas répondu à l'attente des électeurs. On analyse un peu les discours d'investiture du président de la République. En voyant ce gouvernement, on sait immédiatement que vraiment ce gouvernement ne va plus combler l'attente des Maliens. Nous croyons qu'avec ce gouvernement, ces problèmes-là vont continuer encore. Le changement qu'on voulait, on n'a pas vu de changement avec le gouvernement.
À la question de savoir si la main tendue du président de la République est sentie dans ce nouveau gouvernement, Beydi Diakité du PS, il est courant.
Nous venons tout juste de terminer avec un processus électoral où une majorité écrasante a voté pour le président de la République. Fort de cette majorité écrasante, le président vient de mettre en place un gouvernement issu de la majorité. Et nous attendons très bientôt les élections législatives. À l'issue des élections législatives, le gouvernement réel va se dégager en fonction de la majorité. Et on considère que ce gouvernement est le gouvernement de tous les Maliens. Il n'y a pas question de majorité ni d'opposition.
Ce nouveau gouvernement était très attendu par les jeunes du Mali, car le président de la République dit avoir placé son mandat sous le signe de la jeunesse. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, les attributaires de parcelles cédées par l'État dans la principale zone commerciale et les quartiers aménagés de la capitale Ouagadougou sont invités à les mettre en valeur sous peine de leur retrait. Le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme leur a donné une date butoir, fin décembre. De Ouagadougou, les précisions de notre correspondant Issa Napo.
Lasse d'attendre que les bénéficiaires mettent en valeur ces parcelles de terrain situées dans les quartiers stratégiques de la capitale, les autorités gouvernementales sont passées à la vitesse supérieure, bien décidées à leur faire respecter les cahiers de charges librement signés, rappelle Swabo Diallo. Il est le directeur général de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, Sonature.
Depuis 1997, ces personnes sont attributaires donc de ces différentes parcelles et il est important donc que ces parcelles soient mises en valeur. En 2017, une étude a été conduite donc sur le site A de Ouaga 2000. Sur 4281 parcelles à usage d'habitation qu'on avait dégagées, 1403 n'étaient pas mises en valeur. Et sur un total de 431 parcelles de commerce, seulement 195 ont été donc mises en valeur. C'est un échantillon, mais ces chiffres sont révélateurs.
Les attributaires peuvent être inquiets au vu de la détermination affichée par le ministère en charge de l'urbanisme à l'issue d'investigations menées dans les cas quartier très demandé de la zone d'activité commerciale et administrative Zaka et du quartier Ouaga 2000. Si les propriétaires font profil bas, les usagers de la Zaka, eux, restent partagés sur la question.
Je pense que c'est justifié. Quand on souscrit à des engagements, il faut les respecter. On les avait donné un délai pour mettre en valeur. Au centre-ville, comme ça, on ne peut pas laisser d'autres transformer ça en dépotoir et tout ça. Ils ne respectent plus les cahiers des charges.
Actuellement, il y a trop d'agressions dans la zone à cause des vides là.
Construire actuellement, là, c'est pas facile. Mais prendre la parcelle depuis 97 et puis ne pas la mettre en valeur, bon, c'est pas juste aussi.
Ces bénéficiaires accusent près de 15 ans de retard dans l'exécution des cahiers de charges. De là, avoir une main derrière cette décision qui toucherait beaucoup de personnes liées au régime chassé du pouvoir en 2014, il y a un pas à ne pas franchir, estime le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. D'énormes soucis de logement auraient pu être réglés et le schéma d'aménagement se poursuivre sans encombre si ces attributaires s'étaient exécutés, souligne Léon Paul Toué.
Même dans la mise en œuvre du programme de construction de logements, ce qu'on a déjà dégagé comme parcelle dans nos villes, si elles étaient mises en valeur, ça allait influer sérieusement sur l'offre de logement dans notre pays. C'est cette dynamique générale-là que le ministère veut porter pour que, à terme, vraiment, les aménagements déjà réalisés soient des endroits qui ajoutent quelque chose à la physionomie même de nos villes.
Ces attributaires ont ainsi jusqu'au 31 décembre délai de rigueur pour se conformer au cahier des charges sous peine de se voir retirer leur terrain. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les États-Unis ont annoncé la fermeture de la mission palestinienne à Washington. Le négociateur palestinien Saeb Erekat dénonce une dangereuse escalade depuis la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Déjà à la fin août, l'administration américaine a annoncé qu'elle va cesser de financer l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Idriss Fall a recueilli la réaction de Bessel Tourjeman, il est journaliste palestinien basé à Tunis.
Premièrement, c'est quelque chose qui est attendu, c'est pas une surprise pour les Palestiniens. Monsieur le président Donald Trump a décidé de laisser sa place au Moyen-Orient. Elle a décidé que l'Amérique a quitté le processus de la paix et choisi d'être le même camp avec Benjamin Netanyahu. C'est une décision qui ne va pas changer beaucoup parce que les Américains, de plus en plus, sont en train de perdre leur présence diplomatique dans le monde entier. Les relations politiques et diplomatiques entre les Palestiniens et les États-Unis, ils ont coupé plus qu'un an. Ça ne change absolument rien pour les Palestiniens, mais les problèmes maintenant, qu'est-ce qu'ils vont les faire les Américains?
Maintenant, quelle solution? Parce que l'administration Trump demande aux Palestiniens de revenir à la table de négociation.
Table de négociation basée sur quoi? Sur le processus de paix pour mettre fin à l'occupation israélienne en 1967 ou bien pour accepter l'idée de M. Trump pour faire un challenge de siècle entre les Palestiniens et les Israéliens qui dit il n'y a pas de Jérusalem, il n'y a pas de retour de juifs, il n'y a pas de droit de Palestiniens, il n'y a pas. Quelles idées de M. Trump elle a eu pour trouver une solution acceptable et globale dans le conflit palestino-israélien?
Mais est-ce qu'on peut le savoir si on refuse de négocier avec les États-Unis? Parce que depuis que Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, les Palestiniens ont claqué la porte.
Tout à fait, parce que tu n'as pas le droit de violer les décisions faites aux Nations Unies et tu donnes les capitales comme cadeau pour les Israéliens. Et tu dis, après, viens négocier avec moi. Est-ce qu'il a négocié avec les Palestiniens avant et il a pris sa décision?
Tout le monde est d'accord sur la solution des deux États. N'est-il pas possible de discuter pour que Jérusalem-Est devienne la capitale d'une Palestine indépendante?
Comme lui, elle a décidé que Jérusalem, c'est la capitale unique pour Israël. Ça veut dire qu'elle a annulé le droit des Palestiniens d'avoir leur capitale au Jérusalem-Est. Ce n'est pas les Palestiniens qui refusaient que l'autre partie de Jérusalem, c'est la capitale d'Israël.
Mais Jérusalem-Ouest a toujours été la capitale d'Israël. C'est là-bas où est basée la Knesset.
Non, c'est Tel Aviv, la capitale d'Israël. Il y a toutes les ambassades à Tel Aviv. Il n'y a pas eu de reconnaissance internationale ou mondiale que Jérusalem Ouest, c'est la capitale d'Israël. Tous les ambassades, c'est à Tel Aviv. Et jusqu'à maintenant, il y a seulement deux ambassades. La troisième a quitté Jérusalem. Il y a seulement deux ambassades, les États-Unis et un autre pays. Et ça, ce n'est donc pas pour la crédibilité des États-Unis.
C'était Bassel Tourjeman, journaliste palestinien basé à Tunis. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Joselle Morissin, à la console Wojtek Zorniak. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.